Merci à Gert Quackel pour cet exposé assez dense, j'espère intéressant pour chacun de vous. Et puis, je ne doute pas qu'il y ait des questions qui vous restent, et donc on peut prendre un petit moment pour ça, pour poser des questions à Gert pendant 20-25 minutes. Et donc, on n'a pas, autant que je sache, de micro-baladeur. Donc, si vous avez une question, levez la main et puis énoncez-la clairement à haute et intelligible voix. Et puis, Gert répondra au mieux de ses capacités et de ce que sa voix lui permet. Oui, monsieur ?
Donc pour moi, là, si Dieu est juste, elle est soit petit, tout le monde, c'est ça, elle est le chef total. Elle est soit, on ne peut pas tuer des enfants qui n'ont rien fait et on garde les filles. Ça, moi, je ne peux pas comprendre.
Oui, c'est très clair.
Oui.
Oui, question très pertinente, merci beaucoup. Et d'abord, sur un ordre de Dieu dans lequel il dit, bon, on peut tuer dans une guerre les adultes hein, et les enfants, mais pas les jeunes filles. Hein, c'est ça la première question. Les jeunes filles peuvent être épargnées, hein, et vous pouvez les prendre en tant que femmes. Je crois que cet ordre-là, on le trouve en Deutéronome 20, dans la première partie. Excusez-moi. Hein? Donc là, il n'agit pas des peuples de Canaan, mais d'autres peuples. Si Israël fait guerre avec un autre peuple, comme c'était malheureusement l'habitude à l'époque, hein, ils doivent d'abord leur proposer la paix. De faire une alliance, bon, vous acceptez notre souveraineté ou quelque chose comme ça. Si ce peuple-là, avec lequel Israël est en guerre, n'accepte pas ça, mais ils font le combat contre Israël, donc ils essaient aussi d'exterminer l'armée d'Israël, et dans ce cas-là, mais seulement dans ce cas-là, hein, si ce sont les Israélites, le peuple d'Israël qui l'emporte sur l'autre peuple, ils peuvent tuer tout le monde, mais ils peuvent prendre les jeunes filles. Je crois que il y a ça, c'est problématique pour moi aussi. Je crois que une manière d'expliquer un petit peu, mais un petit peu seulement, peut-être c'est pas satisfaisant pour vous, hein, c'est que il y a des lois dans l'Ancien Testament qui ne correspondent pas à l'idéal de Dieu. Et Jésus le dit clairement à propos du divorce. Hein, il dit, dès le début, Dieu n'a pas voulu ça. Il a vu la fidélité entre homme et femme, mari et femme. Hein, mais Dieu vous connaît, donc il a vous donné la possibilité du divorce. Moïse a donné ça, mais ce n'était pas son idéal. Pour moi, ça c'est une révélation, ça, dans le Nouveau Testament, sur le sens des commandements de l'Ancien Testament. Hein, Dieu améliore, en quelque sorte, les habitudes païennes de l'époque, mais il ne va pas tout de suite à l'idéal. Il prend du temps pour le faire. Donc, si on fait la comparaison entre les lois de Moïse et les lois d'autres peuples, en tout cas, Israël avait, dans l'époque de l'Ancien Testament déjà, avait la réputation d'être un peuple moins violent est moins agressif que les autres. C'est le livre des rois qui en parle. Et donc, Dieu avance petit à petit. Donc, mais selon les habitudes du temps, on pouvait tuer tout le monde. Tout le monde, parce que les Assyriens, par exemple, ont utilisé beaucoup de violence. Et donc Dieu n'y met pas fin tout de suite, 100%, mais on fait un peu de progrès. Ça va petit à petit, petit à petit. C'est ça. Donc, j'ai dit déjà, c'est peut-être pas satisfaisant, mais c'est pas que je peux dire là-dessus. Hein, et quant au sort des enfants, dans la Bible, notre idée d'un enfant, peut-être c'est aussi inspiré par Jean-Jacques Rousseau, c'est qu'un enfant est innocent, il n'a rien fait de mal. Hein, c'est ça notre idée. Donc, c'est clair que un enfant n'a pas commis d'adultère, peut-être il a volé un petit gâteau, mais pas de choses extraordinaires, hein, n'est-ce pas? Mais dans les yeux de Dieu, il y a tous les pécheurs, et les enfants aussi, ont participé à cette révolte contre Dieu qui est le péché. Hein, dans ce sens-là, personne n'est innocent, même pas les enfants. Ça, c'est une partie de ma réponse, mais je dis tout de suite, c'est une question très dure. Deuxième aspect, parfois, les enfants sont adressés, c'est de la fin du psaume 137, qui est très, une très mauvaise réputation dans ce contexte, une prière pour l'extermination des enfants de Babylone. Là, je crois, un élément, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont les soldats babyloniens, donc des terroristes de demain. Et donc là, le psalmiste, il demande à Dieu, il faut vraiment que tu y mettes fin, il faut pas que ça continue. Ça, c'est un deuxième aspect. Et les enfants sont les adultes du futur. Et troisième, et je laisse tout ça aux mains de Dieu. Et je sais pas ce que Dieu va faire avec ses enfants au jugement dernier. Je sais pas. Et Dieu est juste. Je le connais comme ça. Mais je comprends pas toujours sa justice. Mais je connais comme juste parce que je connais la vie de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi. Ce que j'ai pas mérité. Il y a souvent un jugement très clair. Mais il y a des cas qu'il n'a pas expliqué. Et ce sort des enfants en fait partie. Donc il faut que je laisse ça aux mains de Dieu aussi. Donc il y a quelques aspects, mais pas une réponse complète. Mais peut-être quelques idées avec lesquelles vous pouvez faire quelque chose. Oui?
Oui, c'est la problématique aussi tribale. Un peu comme Akan, je crois, qui commet quelque chose de pas juste, et bien c'est toute sa famille qui craint. Notre peuple aussi, quand le chef de famille avait commis quelque chose de mal, là, c'était toute la famille
qui... C'est le problème des représailles collectives, en fait. Oui, c'est ça. Ça pose problème pour nous à l'Occident, et je crois à juste titre, parce que il y a aussi un enseignement très clair dans la Bible, un père... S'il doit être tué à cause de son propre péché et pas l'enfant. Et l'inverse non plus. Un roi d'Israël est loué pour cette raison-là parce que son père avait été assassiné. Bon, il a tué les meurtriers, mais pas les enfants, la famille des meurtriers. Il a respecté le commandement de Dieu. C'est quelque part dans le deuxième livre de roi. Le nom de ce roi m'échappe pour l'instant. Je crois Amatia. Non, un des rois de Juda, en tout cas. Donc, si l'on pose la question, c'est à juste titre, je crois, aussi à cause de Agan. J'ai entendu dire, mais je n'ai pas fait le contrôle, que pour les Coréens, en Asie, ça ne pose pas de problème, pas du tout. J'ai été en Corée, mais je n'ai pas osé poser la question. Mais on m'a dit ça. Mais bien sûr si Agan a fait ça, oui, les enfants, ils doivent être tués. C'est la même chose, c'est la même famille. Aucun problème. Donc eux, ils ont toujours, peut-être ça a changé maintenant, parce que presque une majorité chrétienne là-bas maintenant, j'en suis très reconnaissant. Mais il y a quelques ans, c'était assez normal pour eux, toujours les représailles collectives. Et la Bible est un peu entre les deux. Il y a les représailles justice individuelles, hein, mais il y a parfois des représailles collectives, disons l'ancien régime, des représailles collectives existent toujours en quelques mesures. Et le cas d'Agan, il y a une autre explication, deux autres. Pour nous, un enfant, c'est un individu. Il faut le respecter comme ça, je suis d'accord. Mais en Israël, ce n'était pas le cas. Même une femme dans la société patriarcale, comme c'était un peu le cas en Israël, mais c'est compliqué, beaucoup débattu, aussi par les féministes aujourd'hui, ils font un bon travail là-dessus, je crois. Est-ce que cette société était vraiment une société patriarcale ou non? Mais c'était le père de la famille qui était le propriétaire de tout, pour ainsi dire. Hein? Donc c'est pas seulement individualiste comme dans notre société, mais c'était une entité, hein? Un tout, cette maison-là. Donc Agan a fait pris la propriété de Dieu. Il est puni, Dieu prend sa propriété à lui. Ça peut être, on peut l'expliquer comme ça, mais ce n'est qu'une idée parce que la Bible n'explique pas explicitement. Deuxième possibilité, mais c'est un peu spéculatif, c'est que les enfants étaient aussi complices parce qu'il avait caché le trésor dans sa tente. Pourquoi est-ce que la Bible dit qu'il avait caché le trésor dans sa tente? Pourquoi Josué en parle? Dans la tente, ceux qui vivent dans la tente, ils savent tout. Ils ont fermé la bouche. C'est de la spéculation, mais c'est une possibilité. C'est ma tâche en tant que prof d'Ancien Testament de spéculer encore plus, mais je n'arrive pas toujours aux théories avec la même certitude que la mathématique, n'est-ce pas? Ouais. Ouais. Oui, oui. Pas. La Bible n'en parle pas. Une bonne question, mais je ne connais pas de réponse. Pourquoi est-ce qu'il a voulu prendre le pays de Canaan? Il a voulu donner un bon pays à son peuple, mais il y a un aspect qui est un peu surprenant sur le pays de Canaan. La Bible n'explique pas pourquoi est-ce que David, pourquoi est-ce qu'il a élu David? Parce que, aussi à cause de sa piété, etc., son cœur qui était avec Dieu, etc. Pourquoi est-ce qu'il a choisi Jérusalem comme ville du temple? La Bible ne le dit pas. Hein? Mais un aspect du pays du Canaan qui est très spécial, peut-être ça explique un peu les choses, mais c'est aussi une théorie de la spéculation. C'est bien d'être théologien, hein? Parce qu'on s'occupe de choses très sérieuses. Mais comme il y a de l'académique là-dedans aussi, et comme vous savez, l'académique c'est un jeu. Hein, ça ne correspond pas à la totalité de la vie. Dans des règles, on fait quelque chose, on joue un peu avec le sable, hein, comme les enfants, c'est ça la science. Et ça s'applique aussi plus ou moins à la théologie. Si tout était très très sérieux, je serais mort déjà. Mais c'est très spécial ce que Moïse dit sur la terre de Canaan au chapitre 11 de Deutéronome. Je cherche un petit peu. Ça fait longtemps que je vais prêcher là-dessus. Oui. Non. Oui. Ce pays, au verset 10. Bon, le pays dont tu, Israël, va entrer en possession, Canaan, n'est pas comme le pays d'Égypte d'où vous êtes sortis, où tu jetais dans les champs de ta semence et les arrosais avec ton pied comme un jardin potager. Sur ce pays-là. Et donc c'est un pays qui profite des dons de Dieu d'une façon plus claire que l'Égypte. Selon notre raisonnement logique, économique, géographique, on dirait Égypte, ça c'est l'idéal. Parce qu'en Égypte, on ne dépend pas de la pluie. Parce qu'en Canaan, normalement, il a de la pluie, mais moins qu'en Suisse. Beaucoup moins. Et c'est moins sûr aussi. Beaucoup apprécier la verdure partout. Parce que normalement, si je viens en Suisse, moi, il fait mauvais. On ne voit que de la pluie et des nuages. Mais maintenant, c'est vraiment magnifique. Avec ces arbres, ces couleurs, c'est incroyable. Je suis reconnaissant envers Dieu qui m'a donné la possibilité de la voir en faisant route jusqu'ici. C'est vraiment très beau maintenant. Mais je me suis dit aussi, toute cette verdure, ça veut dire qu'il y a beaucoup de pluie. Hein? Parce qu'en Provence, c'est pas comme ça. La Provence est très belle aussi, mais de verdure. Hein? En Canaan aussi, il y a moins de verdure, donc il y a la pluie, mais c'est moins sûr. En Égypte, c'est sûr, c'est le Nil qui arrive chaque année. On peut même fixer la date, peut-être il y a un jour de différence parfois, mais l'eau arrive. Donc, si... Moi, je suis, j'ai l'idée d'émigrer et je vais sur un pays. Où est-ce que je vais? Plutôt en Égypte, plutôt qu'au Canaan. Parce que là, bon, c'est sûr, la vie est sûre, c'est le Nil qui apporte l'eau. Et maintenant, Moïse, il dit l'inverse. Il dit, bon, ce pays d'Égypte, il faut l'arroser avec ton pied. Avec ton pied? Avec des pédaliers peut-être, hein, pour faire l'irrigation, on avait peut-être des machines comme ça, il fallait taper. C'est possible. Il y a aussi des interprètes qui sont peut-être un peu méchants, qui disent, mais le mot pied en hébreu, rego, c'est un euphémisme aussi pour, disons, pour le pipi. Donc il faut pisser pour irriguer le pays. Donc Moïse s'en moque. C'est même un Allemand qui a écrit ça, oui. Il y a des blagues dans les commentaires allemands aussi. C'est un commentaire allemand où j'ai trouvé ça. Très intéressant. Mais il se moque des avantages d'Égypte. C'est très extraordinaire. Qu'il se moque des avantages d'Égypte et dit, mais Canaan, c'est beaucoup mieux. Chaque prof d'économie dirait, il est fou ce Moïse. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que là, on dépend des soins de Dieu. Mais on dépend de Dieu. C'est la pluie qui tombe directement du ciel à partir des mains de Dieu. C'est ça le grand avantage de Canaan. Peut-être ça c'était la raison, mais je n'en sais pas plus. Je n'en sais pas plus. Oui. Oui.
Merci pour votre présentation.
Oui, il y a eu beaucoup de débats là-dessus. Et j'ai eu un étudiant en doctorat qui a présenté une thèse sur Josué 9, pas sur Jéricho et Haï, mais Josué 9, etc. Le reste de la conquête. C'est en anglais très volumineux, publié par Bril à l'aide aux Pays-Bas, donc 170 euros, quelque chose comme ça, mais vous aurez quelque chose. Hein. 500 pages. Mais, qu'est-ce que je veux dire? Il n'y a pas beaucoup de preuves archéologiques. Mais c'est logique. Parce que si une. Comment est-ce qu'on peut voir dans l'archéologie qu'on a mis fin à un peuple? On peut. Comment trouver des preuves s'il n'y a pas de texte qui en parle, sauf la Bible? Mais la Bible est l'accusé maintenant dans le tribunal. Est-ce que c'est vrai ce que la Bible dit? Donc il ne peut pas se défendre lui-même. Pour le reste, on ne trouve rien jusqu'ici. Rien qui le contredit, mais rien qui le confirme non plus. Parce qu'il y a très peu de manuscrits d'Israël. En Égypte, c'est différent à cause de ce climat. Égypte, c'est très, très sec. Donc là, le papyrus, c'est bien conservé. C'est pourquoi on a beaucoup de textes de l'Égypte. En Mésopotamie, c'est pas si sec que l'Égypte, mais là, il y a tablette cuneiforme en argile. Ça passe par des fourneaux parfois. Donc ça tient, ça carne. Mais en Israël, très peu de textes pour ces raisons de climat et du matériel qu'on a utilisé pour écrire. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ce sont les ruines. Mais si on trouve dans une ruine, par exemple, un incendie, qu'est-ce que ça veut dire? On peut trouver les restes, les cendres, dans les ruines, dans les telles, comme on dit. Mais est-ce que c'était une conséquence de la conquête de Josué ou un incendie normal? Un incendie, à cette époque-là, il n'y avait pas de pompistes, de pompiers, de sapeurs-pompes. Bon, difficile. Pompiers, voilà. Les pompistes, c'est l'enterrement, n'est-ce pas? Oui. Non? C'est le même chose?
Les pompistes, c'est la station service.
Ok. Pourquoi est-ce qu'on a construit ce tour de Babel? Voilà. Donc, c'était pas bien organisé, il y a beaucoup de matériel qui brûle très bien, etc. Donc, même si on trouve des cendres, on sait pas la cause, parce que la ruine ne parle pas. Et la Bible dit aussi que Josué a brûlé 3 villes seulement. Jéricho, Aï et Hatzor, au nord. Et à Hatzor, on a retrouvé une couche qui pourrait correspondre à l'époque de Josué. Comme l'a montré mon étudiant Kurt van Beckham dans sa thèse. Jéricho, Aï. Jusqu'ici, on n'a rien trouvé. Mais il y a aussi de l'érosion. Toute une couche peut disparaître aussi. Donc, il n'y a pas des fouilles archéologiques qui ont confirmé l'histoire de Josué, sauf cette donnée de Hatzor. Et une autre encore, dont je vais en parler tout de suite. Mais pas de contradiction dans ce sens-là non plus, parce qu'une conquête, parfois, ne laisse aucune trace dans l'archéologie. Même un chancement de population, les archéologues ne peuvent pas voir ça. S'il y a un nouveau peuple qui arrive, mais qui utilise les mêmes couteaux, les mêmes plats, etc., que les autres, on ne voit pas de différence. Parce qu'une différence peut-être de langue, mais si on écoute bien la ruine, on n'entend rien. Mais il y en a qui disent, mais on peut trouver dans quelques parties d'Israël, notamment là où les Israélites se sont installés, qu'à un certain moment, il n'y a plus d'eau de porc, de cochons. Donc, peut-être on a abandonné la consommation du porc. Et ça, c'est selon la loi de Moïse. Donc ça peut être une preuve de la présence d'Israël. Mais il n'y en a pas beaucoup.